Vous êtes sur RTL.
8h. Et RTL Soir, c'est maintenant avec vous, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos tous ensemble. Ce soir à la une, RTL vous présente le football de demain. Le légendaire entraîneur Arsène Wenger sera notre invité de 18h15. Expulsion temporaire, micro sur les arbitres, VAR automatisé, hors-jeu assoupli, mondial tous les 2 ans. Le directeur du développement du foot mondial à la FIFA nous livrera ses pistes pour l'avenir. Les autres titres de l'actualité maintenant. À suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Des menaces de mort et une photo de Samuel Paty, enquête ouverte à Marseille sur des courriers envoyés depuis la rentrée à un couple d'enseignants. Dans ce journal aussi, les prix des carburants, toujours à la hausse, entre colère et inquiétude. Le communiste Fabien Roussel se place en tête de file pour appeler à la mobilisation. À suivre aussi des marques, des masques à la machine et puis le PSG sans Neymar demain en Ligue des Champions pour affronter Leipzig. Les courses dans le Quintet Plus à Clairefontaine, il fallait jouer le 2, le 7, le 4, le 10 et l'As.
Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'interroger. Faut-il craindre une nouvelle flambée de Covid? Les chiffres remontent. Après 18h30, laissez-vous tenter dernière. Carlos Santana est de retour. La légende de la guitare se confie à RTL. 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu?
Ce soir, on s'intéresse déjà à vos fêtes de fin d'année. Y aura a-t-il des huîtres à Noël? Et puis vous découvrirez grâce à l'enquête de Céline Landreau si la course à pied est un sport de droite ou de gauche, ça promet.
Sacrée question. À 19h, le débat du jour. Faut-il en finir avec la maison individuelle? Pas assez écolo pour Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, a fait polémique. Elle sera notre invitée pour s'expliquer. Et une fois les explications entendues, nous laisserons place au débat. 19h15, on refait le monde avec Éric Brunet. Des points réguliers sur le temps avec vous, Peggy Broche. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Demain, c'est l'été.
Quasiment, oui, c'est vrai, soleil et douceur au programme.
On vous retrouve dans quelques minutes pour détailler tout ça.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
À Marseille, une enquête a donc été ouverte après ces menaces de mort dont a fait l'objet un couple d'enseignants.
Étienne Baudu, vous êtes à Marseille pour RTL. Ces profs d'un établissement des quartiers nord ont donc reçu plusieurs courriers avec une référence claire au sort de Samuel Paty il y a un peu plus d'un an.
Ah oui, la première menace aurait été reçue peu de temps après la rentrée en septembre. Une photo de l'enseignant tué dans les Yvelines déposée dans la boîte aux lettres du couple, suivie toujours en septembre d'une première lettre de menace de mort. Enfin, plus récemment, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, un an jour pour jour donc après l'assassinat de Samuel Paty, une deuxième lettre de menace de mort est glissée dans leur boîte aux lettres. Il semblerait que le mari soit professeur d'histoire dans ce collège des quartiers nord, mais selon le parquet, en l'état, il n'y aurait rien à voir avec la manière dont il enseigne. Un dispositif de mise en sécurité du couple a été mis en place par les services de police en relation avec le rectorat. L'enquête a été confiée à la Sûreté urbaine de la Division Sud.
Les précisions d'Étienne Baudu à Marseille pour RTL. Mais où s'arrêteront-ils? Les prix des carburants ont encore progressé. Plus 2 centimes la semaine dernière. Nouveau record pour le gasoil à 1,56€ le litre. 1,66€ pour le sans-plomb 95. Si le gouvernement travaille à la mise en place d'un chèque carburant, l'opposition veut accélérer le mouvement.
Et 3 ans après la mobilisation des Gilets jaunes, le candidat communiste à la présidentielle, Fabien Roussel, appelle à des manifestations dès ce week-end, ça nous rappelle quelque chose, devant les préfectures.
Nous appelons à nous rassembler devant les préfectures parce que nous voulons nous adresser à l'État. Le préfet, c'est le représentant de l'État, pour que dans tous les départements de France, devant toutes les préfectures ou les sous-préfectures, eh bien qu'ils entendent tous ces représentants de l'État, la colère des classes populaires, la colère de ceux qui travaillent, la colère des retraités, la colère des maires aussi, à qui on prive de moyens aujourd'hui pour répondre aux besoins des habitants. Eh bien, il faut qu'ils entendent tout cela pour que ce gouvernement fasse enfin redescendre l'argent qui est le nôtre. Cet argent aujourd'hui, on en est privé, il a été distribué aux plus riches. Eh bien, nous voulons qu'il redescende à ceux qui en ont besoin, à ceux qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie.
Le candidat communiste Fabien Roussel, joint pour RTL par Marie-Bénédicte Allaire.
Laissez-nous travailler, nous, responsables politiques. Le message d'Emmanuel Macron aux magistrats. Le chef de l'État qui a lancé tout à l'heure les états généraux de la justice, une concertation qui va durer 5 mois pour repenser le système judiciaire, critiqué aujourd'hui notamment pour sa lenteur. Et pendant son discours, Vincent Derosier, le président n'a pas manqué d'égratigner les juges.
Oui, une énième remise à plat de la justice et le président, lui, en a profité pour mettre directement les pieds dans le plat. La nomination d'Éric Dupond-Moretti avait été très mal vécue par les magistrats. Qu'importe, le chef de l'État s'en prend aux juges, notamment pour les enquêtes menées dans le cadre de la crise du Covid sur l'action du gouvernement, les mises en cause d'Édouard Philippe ou d'Olivier Véran, ou la mise en examen d'Agnès Buzyn.
Quand des responsables, ministres, fonctionnaires, élus, se trouvent cités dans une procédure pour une crise qui est encore en cours, nous sommes loin de l'apaisement et de l'équilibre que j'évoquais précédemment. Et la situation que nous sommes en train de vivre collectivement pose une question qui peut venir mettre en tension l'autorité judiciaire avec les autres pouvoirs.
Alors le président a également rappelé que la réforme de la Cour de justice de la République n'avait pas pu aboutir durant son quinquennat, mais qu'il le regrettait, cette Cour de justice chargée de juger l'action des ministres. Emmanuel Macron aimerait la supprimer s'il est réélu en 2022.
Décryptage signé Vincent Derosier pour RTL.
C'est une affaire dont on avait beaucoup parlé, le crash de l'avion du footballeur argentin Emiliano Sala en 2019. Aujourd'hui, un intermédiaire vient de reconnaître ses fautes à l'ouverture de son procès.
Soupçonné d'avoir organisé ce vol entre Nantes et Cardiff où devait être transféré le joueur à l'occasion du mercato, cet homme a plaidé coupable pour une partie des faits qui lui sont reprochés. La correspondance Outre-Manche pour RTL de Marie Boueda.
Dès les premières minutes, il a plaidé coupable d'avoir transporté un passager dans un avion qui n'avait pas l'autorisation de faire des vols commerciaux. On lui reproche aussi d'avoir mis en danger la sécurité de l'avion, d'avoir agi de manière négligente. Pour le moment, David Anderson nie. Le procès doit durer 2 semaines. Les 12 membres du jury ont été sélectionnés aujourd'hui. Ils ont dû promettre qu'ils n'étaient pas des supporters du Cardiff Football Club. Il y a presque 2 ans, Emiliano Sala monte dans l'avion en pleine nuit. Le pilote, David Ibbotson, perd le contrôle de l'appareil qui s'écrase dans la Manche. Les 2 passagers périssent. On ne sait toujours pas pourquoi David Anderson n'était pas aux commandes de l'avion et pourquoi c'est un pilote inexpérimenté qui l'a remplacé, sans licence pour les vols de nuit, pas habilité non plus au transport commercial de passagers. Tout ça dans des conditions météo difficiles.
À Londres, Marie Boueda pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant. Tendez l'oreille, ça va vous intéresser. Les masques chirurgicaux vont pouvoir passer de votre poubelle à la machine à laver. Parce que non, les lavages ne réduisent pas leur efficacité, on l'apprend. Explication à suivre.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
RTL Soir.
18h08, la suite de votre journal sur RTL. Alors on a entendu tout et son contraire sur le sujet, mais cette fois-ci c'est confirmé. Vous pouvez bien laver et réutiliser vos masques chirurgicaux et plus d'une fois.
Bonsoir Virginie Garin.
Bonsoir.
C'est en effet le résultat d'une étude menée pendant 1 an et demi par des chercheurs français.
Oui, ils ont lavé et relavé des masques en laboratoire et les conclusions de cette équipe du CNRS de Grenoble sont claires. Oui, le masque est toujours aussi efficace contre le virus. Après 10 lavages, ils pensent même qu'on peut sans doute le laver plus, mais il s'arrête à 10, d'autant que le masque commence à pelucher au bout d'un moment et ça devient désagréable. Il faut le laver à 60 degrés avec de la lessive et justement pour éviter l'usure, le laver enfermé dans une taie d'oreiller par exemple. Donc c'est une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie et pour la nature puisqu'en 1 an, il s'est vendu plus de 30 milliards de masques en France qu'on est censé pouvoir recycler aujourd'hui, mais ça ne marche pas très bien, donc autant en utiliser moins.
Virginie, il y a quelques mois, on nous disait le masque, on le garde 4 heures pas plus sur le nez, ça on oublie complètement.
Non, ça c'est ce qui est toujours recommandé dans un bloc opératoire car le masque, après plusieurs heures quand il est humide, protège moins contre les projections de sang, par exemple, et il peut laisser passer, dans ce cas, des bactéries. Donc le conseil qui était donné au début du Covid se basait sur ces règles, justement, dans les hôpitaux. Ce n'était pas faux, ça reste en vigueur. En revanche, pour le Covid, dans les usages de la vie quotidienne, on sait désormais qu'on peut le laver.
Les explications de Virginie Garin pour RTL.
Et puis notez que la vaccination antigrippale a été avancée de 4 jours. Vous pourrez vous faire vacciner contre la grippe en ville, c'est-à-dire chez les pharmaciens et les généralistes à partir de ce vendredi 22 octobre en EHPAD. Les vaccinations ont-elles commencé ce matin? Son nom restera à jamais lié à la guerre lancée contre l'Irak en 2003. Colin Powell est mort à l'âge de 84 ans, victime de complications liées au Covid. Soldat au Vietnam, premier afro-américain nommé chef d'état-major désormais avant d'incarner la diplomatie américaine sous George W. Bush.
Et Colin Powell s'était alors illustré à l'ONU en brandissant une petite fiole, soi-disant d'anthrax, pour dénoncer la présence d'armes de destruction massive en Irak.
Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit
Voilà, Colin Powell qui a ensuite qualifié cet épisode de tâche sur sa réputation à ses dernières années. Il avait pris ses distances avec les Républicains, soutenant Barack Obama, Hillary Clinton et Joe Biden. Les démocrates donc dans la course à la Maison Blanche.
Bataille de diplomates et crise ouverte entre Paris et Minsk. Le Bélarus qui reproche à la France de ne pas reconnaître l'élection de l'autoritaire Viktor Loukachenko.
Dont le régime, vous vous en souvenez peut-être, avait détourné un avion de ligne pour arrêter un opposant, a réprimé des manifestations. Aujourd'hui, Minsk a rappelé son ambassadeur en France, après avoir expulsé hier l'ambassadeur français sur place, Nicolas Delacoste, qui, dans une vidéo postée aujourd'hui sur le site de l'ambassade, s'est adressé aux habitants du Bélarus. Vidéo en russe, vous êtes forts, nous serons à vos côtés, ne perdez pas espoir, dit l'ancien ambassadeur donc français au Bélarus. En bref, ces dernières précisions sur l'attaque de la semaine dernière en Norvège. Le suspect n'a pas utilisé un arc et des flèches, mais une arme blanche. L'homme de 37 ans qui a reconnu les faits a été placé en détention dans un institut médicalisé. La maladie est désormais la piste privilégiée pour expliquer son geste.
RTL, 18h12, ce sera donc sans Neymar. Le Brésilien blessé aux adducteurs ne sera pas du match du PSG contre Leipzig en Ligue des Champions.
Troisième match demain pour les Parisiens en tête de leur groupe, là où Leipzig s'affiche bon dernier, deux matchs de défaite, mais prudence tout de même pour le défenseur Presnel Kimpembe.
Je dirais que chaque match a son histoire. On sait que Leipzig, ça va être un match compliqué. On a pu le voir face à une équipe comme Bruges. On sait que ça va pas être facile. Maintenant, on est à la maison. On va jouer avec notre qualité en espérant faire un gros match. On connaît les qualités de cette équipe. Ça va pas être un match facile. Après, voilà, j'ai aussi la chance d'avoir des amis qui y jouent. Donc, ils m'en ont parlé. J'essaie de tirer les bons côtés aussi. Et c'est un club qu'il faut observer, qui fait aussi de grandes choses au niveau européen.
Le défenseur parisien, Presnel Kimpembe, au micro RTL de Nicolas Georgerot, le PSG face à Leipzig. Ce sera demain à 21h.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Le week-end décidément a souri aux Français. Ils ont gagné à l'Euromillion. Enfin, en tout cas, l'un d'entre nous a gagné à l'Euromillion. J'avais joué, mais c'est pas moi. Et puis il y a un autre Français qui s'est illustré. Il s'appelle Serge Zaka et il a été récompensé par le public dans le concours le plus prestigieux des plus belles photos météo du monde. Un cliché pris à Cannes en août 2020. Superbe cliché d'orage sur la baie de Cannes. Lui qui chasse les orages depuis désormais 16 ans.
Les chasseurs d'orages, ouais, c'est incroyable, ça j'adore. Merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant, Peggy, pas d'orage demain.
Ça c'est sûr, on est bien d'accord, c'est d'ailleurs même la plus belle journée de la semaine. Bon, le matin il restera encore quelques gouttes, c'est vrai, le long des frontières du Nord. Le temps sera plus nuageux entre les côtes de la Manche, la région parisienne et le Grand Est. Ce sera beau ailleurs après dissipation de quelques grisailles, sauf sur le golfe du Lion, où ça restera chargé toute la journée avec quelques faibles pluies et du vent. Et puis dans la journée, le soleil va s'imposer partout ailleurs. Les nuages seront juste un peu plus nombreux. C'est vraiment histoire de chipoter sur les frontières du Nord. Et la pointe bretonne, il va faire bon chaud du côté de Biarritz. Vous imaginez 28 degrés à Biarritz demain. Oui, on sera 8 degrés au-dessus des normales. 21 à Langres, ça c'est la température, l'une des températures les plus basses. 21 à Metz et Nîmes, 22 à Toulon, 23 à Abbeville et Limoges, 24 à Rennes, 25 à Auch. Voilà pour demain.
On en profite. Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Allez, maintenant sur RTL, on va s'interroger. Faut-il avoir peur d'une cinquième vague? Vous pensiez en avoir fini avec le Covid? Eh bien, le taux d'incidence remonte, c'est-à-dire le nombre de contaminations pour 100 000 habitants, plus 11% en une semaine. Alors, évidemment, ces chiffres interpellent. On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir, Odile Pouget.
Bonsoir.
Déjà, ça remonte où?
Alors, c'est assez disséminé. Il n'y a pas de grande zone géographique homogène. Si on observe la carte de France, les courbes sont en légère hausse dans toute l'Île-de-France, vers l'ouest, dans le Maine-et-Loire. Loire et les Deux-Sèvres, par exemple, en Occitanie, du côté de l'Aveyron, dans le sud avec les Bouches-du-Rhône, le sud-est avec les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence, ainsi que dans le Rhône. Au total, 23 départements, soit un petit quart, sont au-dessus du seuil d'alerte, qui est de 50 pour 1000. Les Bouches-du-Rhône, Paris et la Lozère occupent le peloton de tête.
Pourquoi ça remonte? Il y a des causes multiples.
Absolument. L'arrivée de l'automne avec des températures plus basses, on sait que le virus les adore. Plus de temps passé dans des endroits confinés. Le relâchement des gestes barrières, parfois manifestes, la fin du port obligatoire du masque dans les écoles primaires, ça concerne quand même 79 départements. Seule la Lozère, pour l'instant, a dû faire marche arrière. Ouais. Ce département a enregistré une hausse des cas notable chez les 6-10 ans, mais aussi chez les 40-49 ans.
Pourtant, c'est trop tôt pour dire c'est la faute de l'école.
Ah oui, le retrait du port du masque en primaire ne date que du 4 octobre, on a peu de recul. Et dans certains départements où la mesure est entrée en vigueur il y a donc 15 jours, les nouvelles contaminations chez les 6-10 ans sont même en baisse continue. Mmh. C'est le cas par exemple de la Saône-et-Loire, de la Mayenne ou de l'Aude, où les taux d'incidence dans cette tranche d'âge ont été divisés par 4 ou 5.
Les explications de la brigade RTL, merci Odile Pouget. Une pause et ensuite Arsène Wenger va dessiner le foot de demain sur RTL, le directeur du développement du foot mondial à la FIFA. Et notre invité, expulsion temporaire, micro sur les arbitres, hors-jeu assoupli, mondial tous les deux ans. Il livre ses pistes, elles font polémique juste après ça.
RTL Soir avec Julien Cellier. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée avec RTL et notre invité maintenant est l'homme qui pense le football de demain. Bonsoir Arsène Wenger.
Bonsoir.
Vous êtes l'ancien entraîneur légendaire d'Arsenal, aujourd'hui directeur du développement du foot mondial à la FIFA, la Fédération Internationale. Et vous êtes aussi en ce moment le parrain des 20e journées de l'arbitrage La Poste, des journées qui débutent après-demain. Dans un contexte où justement on a besoin d'arbitres, hein. 82% des Français estiment que c'est un rôle de plus en plus difficile, c'est le résultat du baromètre Kantar La Poste. Est-ce qu'il y a urgence à susciter de nouvelles vocations aujourd'hui?
Oui, il est urgent à la fois de susciter des vocations, mais aussi d'éduquer les jeunes pour respecter l'arbitre. Mmh. Donc, on a une jeune arbitre féminine ici. Quand je lui ai demandé combien d'arbitres féminines il y avait sur Paris, elle m'a répondu une vingtaine. Donc, une vingtaine dans une région de 10 millions d'habitants, c'est vraiment très très peu. Donc, il y a vraiment urgence pour susciter des vocations, surtout que le grand boom de demain, ça va être le football féminin.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux jeunes footballeuses qui nous écoutent peut-être, qui hésitent peut-être à se lancer dans cette voie de l'arbitrage?
Au moins d'essayer. Il faut peut-être aussi dans les clubs, dans les séances d'entraînement, faire des séances de 10 minutes où les joueurs passent arbitre pour se rendre compte de la difficulté et pour certains de découvrir que ça leur plaît, parce que tout le monde n'est pas spécialement doué comme joueur, mais on peut être un joueur moyen et peut-être être un arbitre extraordinaire.
Alors, on le disait, être arbitre, ce n'est pas facile, et notamment au niveau. On s'en rend compte chaque week-end sur les terrains de foot. On apprend par exemple que les arbitres de Ligue 1, après sondage interne, aimeraient porter un micro, un peu comme au rugby. Tiens, un exemple de ce qui se fait déjà par exemple en top 14. Écoutez cet extrait de match. Toutes les conversations entre arbitres et joueurs sont audibles, et notamment pour le téléspectateur.
Je vous demande juste maintenant de mettre la discipline. Là, vous êtes pris, d'accord, par le 4, il y a un avantage, il y a essai. Donc c'est pas la peine de faire autre chose, d'accord? Oui, allez-y, prenez le temps de leur parler. Oui, oui, oui.
Okay. Est-ce que c'est l'avenir, vous, en tant que représentant de la FIFA? Je crois que vous avez déposé une demande en ce sens. Quand on est écouté, on fait attention à ce qu'on dit en général?
Je pense que c'est le moyen le plus efficace pour tuer l'irrespect des joueurs envers les arbitres. Quand les joueurs se verront à la télévision en train d'haranguer l'arbitre, je pense qu'ils cesseront tout seuls. Et quand tout le monde autour d'eux entendra ce qu'ils disent à l'arbitre, je pense que ce sera le meilleur moyen de les dissuader de le faire.
Et c'est quoi l'avenir de l'arbitrage, Arsène Wenger? Vous êtes prononcé par exemple pour un assouplissement de la règle du hors-jeu. À quoi vous pensez exactement?
Il faut essayer de rendre le jeu toujours plus spectaculaire, toujours plus rapide, et que toutes les règles qui favorisent le jeu offensif, on doit les encourager. Il y a une phrase dans la loi du hors-jeu qui dit qu'en cas de doute, la décision doit bénéficier à l'attaquant. La VAR a tué le doute, elle a rendu la précision, donc il faut peut-être redonner un avantage à l'attaquant, parce que l'attaquant a l'impression aujourd'hui que la VAR quelque part le pénalise. Si vous êtes devant votre défenseur avec une longueur de nez, vous êtes hors jeu. Alors qu'avant, il y avait but.
Mais on voit que la VAR, d'ailleurs, a toujours des détracteurs. Comment vous vous positionnez? D'après le baromètre Kantar La Poste, ça y est, il y a plus d'un Français sur deux qui y sont favorables. C'est un chiffre qui a mis le temps pour grimper.
Vous savez, moi, je pense que, j'ai passé ma vie dans la compétition, donc je pense que la vraie plaie dans notre métier, c'est la défaite. La défaite, on a toujours du mal à l'accepter, mais quand elle est due à des décisions injustes, elle vous révolte. Donc ce que la VAR a provoqué, c'est plus de décisions justes. Et c'est pour ça que je suis un grand défenseur de la VAR.
Oui, mais il y a toujours des polémiques. On voit le but de Mbappé en finale de Ligue des Nations. Toute l'Espagne le voit hors-jeu, par exemple.
Il y a toujours des polémiques, mais d'abord, je dirais que la vie de l'arbitre, en général, est devenue plus facile, parce que quand on a quelqu'un accusé aujourd'hui, on accuse la VAR et pas l'arbitre. Dans ma jeunesse, souvent, on évacuait l'arbitre dans des fourgons de police. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est un peu dû à la VAR aussi. C'est vrai qu'il y a encore des polémiques. Elles s'amélioreront tout simplement parce que le personnel de la VAR sera mieux formé. N'oubliez pas que c'est un métier très récent. Et puis, ils s'amélioreront aussi parce que la technologie sera encore supérieure dans quelques temps. Par exemple, le hors-jeu, on prendra des décisions beaucoup plus rapides. On passera au semi-automatisé puis à l'automatisé très vite.
Et est-ce qu'il faut aussi offrir d'autres armes aux arbitres? On parlait du rugby tout à l'heure, où lorsqu'on reçoit un carton jaune, on est exclu de manière temporaire pendant 10 minutes. Ça peut être une idée pour le football?
Oui, ça peut être une idée pour le football, parce que comme on voit de façon plus précise les tacles aujourd'hui, c'est vrai que nous aussi, souvent, est-ce que c'est jaune ou rouge? Et puis on pourrait dire que on aimait bien l'orange.
Tous ces dossiers là,
expulsions temporaires, sans oublier que, si vous voulez, pour être vraiment juste, il faudrait pas que l'expulsion, le carton rouge, bénéficie souvent à l'adversaire d'après, mais qu'il bénéficie à l'équipe qui a subi les dommages du jour.
Et tous ces dossiers, exclusion temporaire, assouplissement du hors-jeu, est-ce que ces dossiers ont une chance d'aboutir, ou est-ce que vous les portez avec des réticences encore aujourd'hui en face de vous?
Écoutez, il y a des réticences tout le temps, parce que d'un autre côté, le football est devenu le sport le plus populaire au monde, aussi grâce à un certain immobilisme des règles. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de changer, parce que la société évolue très vite. Il faut être assez courageux pour le faire, mais en même temps, bien tester les prises de décision, un ou deux ans, par des expériences pratiques sur le terrain avant de prendre la décision.
Donc il y a peut-être des expériences pratiques qui seront menées dans les prochains mois? En tout cas, la FIFA y pense.
Il y a des expériences qui sont en cours actuellement. On a été un peu freiné par la Covid. Par exemple, la loi que j'ai proposée sur le hors-jeu devait être expérimentée en Chine et aux États-Unis, mais elle a été arrêtée parce que les championnats n'ont pas eu lieu, donc on a perdu un an.
Vous parlez d'immobilisme. Dans votre volonté d'un foot plus spectaculaire, il y a aussi l'idée d'un spectacle qui soit plus régulier. Vous militez, ça fait polémique d'ailleurs, pour une Coupe du Monde tous les deux ans. Ici en France, le ministre Jean-Michel Blanquer y est fermement opposé. À force de vouloir tirer un maximum d'argent de chaque chose, on finit par tuer la poule aux œufs d'or, dit-il. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous ne craignez pas une banalisation du mondial?
Non, Blanquer, j'aimerais bien lui expliquer. Moi, personnellement, je milite pour un calendrier plus moderne, avec une meilleure séparation des matchs entre les clubs et les équipes nationales. Ça créerait de l'espace pour faire une grande compétition à la fin de l'année. Il n'y aurait pas plus de matchs, il n'y aurait pas...
Oui, parce que c'est ça, les joueurs déjà se plaignent déjà de trop jouer. Le gardien de la Belgique, après la Ligue des Nations, disait qu'il ne pense pas aux joueurs.
Je m'inscris en faux contre ça. Moi, tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie, c'est avec les joueurs qui n'ont pas joué. Ce n'est pas avec ceux qui ont joué. Les joueurs, ils veulent faire des grandes compétitions. Ils ne veulent peut-être pas faire toujours les matchs moyens, de moindre importance. Les grandes compétitions, ils veulent les faire. Le respect des spectateurs passe aussi par leur donner des compétitions qui ont vraiment une importance.
Ça veut dire, par exemple, plus de Coupes du Monde et terminer la Ligue des Nations?
Ça veut dire que le prestige de la compétition, à mon avis, n'est pas lié à la distance entre deux compétitions, mais sinon, on ferait une Coupe du Monde tous les 10 ans, elle serait très prestigieuse.
Merci Arsène Wenger, directeur du développement du foot mondial à la FIFA et parrain des 20e journées de l'arbitrage La Poste, qui donc débute après-demain, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL pour parler et de l'arbitrage et du foot de demain. Merci.
Merci, au revoir.
Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
Alors, on va marquer une petite pause et ensuite RTL Soir va continuer. Dans les dessous de l'actu, on va vous présenter le monde de demain, un monde parallèle, virtuel. Alors, ce n'est pas de la science-fiction. Facebook veut même créer 10 000 emplois pour le construire. On vous explique tout juste après ça, tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier.
Bonne fin de journée avec RTL, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Si vous nous rejoignez, on vous rappelle maintenant les grands titres de l'actualité. Marion Calèche.
Elle devait commencer mardi prochain. Ce sera finalement dès ce vendredi. La vaccination contre la grippe, avancée de quelques jours en EHPAD, elle a commencé ce matin. Une enquête ouverte pour menaces de mort sur personnes dépositaires de l'autorité publique, ouverte à Marseille. Des menaces reçues par un couple d'enseignants des quartiers nord dans les courriers, notamment une photo de Samuel Paty. Il était l'invité d'RTS Soir il y a quelques minutes. Arsène Wenger, désormais chargé du développement du foot à la FIFA, se dit favorable à la création d'une nouvelle sanction contre les joueurs, une expulsion temporaire. Arsène Wenger plaide pour des expérimentations, notamment sur ce dossier.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, demain c'est un peu l'été.
Exactement, parce que c'est vrai que ce sera de la douceur demain après-midi jusqu'à 28 degrés, Julien à Biarritz, 26 à Cognac, 25 à Tours, 24 à Alençon, 23 à Paris, 21 à Grenoble. On sera au-dessus des normales, côté ciel. Encore quelques nuages au nord de la Loire le matin, mais un beau soleil quasiment partout l'après-midi. Quasiment parce que ça restera chargé avec quelques averses sur le golfe du Lion toute la journée.
Merci Peggy. We'll be right back.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et ce soir, dans les dessous de l'actu, on essaie de comprendre les petites annonces de Facebook. Facebook va créer 10 000 emplois en Europe pour développer le métaverse. Alors le métaverse, qu'est-ce que c'est ? Vous entendez sans doute ce nom comme nous, hein, pour la première fois. On vous prévient, c'est un peu de la science-fiction. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
C'est quoi le métaverse ? C'est un monde parallèle, un monde virtuel ?
Oui, les deux, un monde parallèle et virtuel, puisque tout se passe sur Internet. Ce sont des lieux de rencontre dans lesquels vous évoluerez en restant à la maison. En gros, vous serez ailleurs, mais toujours chez vous. Alors, pour pénétrer ce métaverse, il faudra s'équiper d'un casque de réalité virtuelle. Apparaîtront alors les différents endroits où vous pourrez vous téléporter, en quelque sorte. Vous en choisirez un et vous vous y rendrez. Enfin, pas vous en chair et en os, mais plutôt votre avatar, c'est-à-dire vous, représenté par un petit personnage virtuel.
Mais pardon, mais ça sert à quoi ?
À plein de choses. Par exemple, dans le domaine du divertissement, à assister à un concert qui se tient à des milliers de kilomètres.
Ah ouais.
Plutôt que de le regarder derrière votre écran, vous y êtes en vrai. Enfin, votre avatar y est, au milieu du public. Vous pouvez même y retrouver vos amis. Vous savez, ceux qui habitent à l'autre bout de la France et que vous ne voyez jamais. Vos avatars se rencontreront et vous pourrez discuter. On peut aussi imaginer, dans le domaine du travail, recréer virtuellement une salle de réunion où les employés se retrouvent via leurs avatars. Ça évite les déplacements et la perte de temps.
Je vois les yeux écarquillés de Peggy qui se voit déjà au concert de Beyoncé à New York.
C'est ça.
Pourquoi
exactement.
Facebook s'y intéresse ?
Alors vous savez, Facebook a racheté il y a quelques années les casques de réalité virtuelle Oculus. L'entreprise est à fond dans cette technologie et croit dans ses nouvelles interactions sociales. En plus, il y a tout un écosystème à développer. On peut imaginer d'ici 4-5 ans acheter des maisons virtuelles pour y rencontrer ses amis, les mêmes qui sont très loin de chez vous. Acheter des meubles virtuels, des vêtements, des accessoires pour son avatar. Il y a déjà eu quelques expérimentations de ces événements virtuels et Gucci a récemment vendu un sac virtuel $4000, un sac destiné à un avatar.
Complètement dingue, c'est peut-être ça
l'avenir.
$4000 le sac pour l'avatar, ça fait quand même un peu cher. Les dessous de l'actu avec Sophie Jousselin sur RTL.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu. Laissez-vous tenter, dernière.
Et qui sait, peut-être bientôt dans le monde virtuel, on pourra aller voir les concerts de Carlos Santana qui se fait rare. C'est l'un des plus grands guitaristes au monde, l'un des précurseurs de la world music et il vient de publier Blessing et Miracles. On en parle ce soir dans Laissez-vous tenter dernière parce que c'est le conseil de LVT à écouter dans les jours à venir. Steven Bellery, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et c'est chic, vous avez joint le musicien de légende mexicain pour RTL.
Oui, à 74 ans, il revient avec 15 nouveaux morceaux, 26e album en plus de 50 ans de carrière, un rythme créatif effréné pour celui qui a façonné un style fusionnant l'électricité du rock à la rondeur et la chaleur des rythmes sud-américains. En un mot, Carlos Santana a créé le rock latino sensuel.
Quand j'étais jeune, j'avais mis un rideau sur la sensualité. J'étais pas à l'aise avec. À cette époque, j'étais empreint de mon éducation catholique. Et les catholiques ont peur du sexe. Ils pensent que c'est un péché. Ils se cachent dans l'obscurité au lieu de faire l'amour, la lumière allumée. Eh bien oui, ma musique est spirituelle et sensuelle. Mais quel chemin ça a été ? Oui, j'ai soif, j'ai faim et je suis chaud. Ce sont des dons et tu te dois de les honorer. Si tu ne le fais pas, tu deviens amer, colérique et bizarre. C'est normal d'être assoiffé, affamé et excité. Créer quelque chose de magnifique avec.
Santana Celebration, dans lequel on entend des éléments de Sol Fiesta de Manu Dibango.
Carlos Santana, qui, il faut quand même s'en souvenir, était sur la scène de Woodstock en 1969 et qui est donc devenu l'un des guitares héros du XXe siècle.
Oui, grâce à un jeu très lyrique, bouillonnant, parfois saturé, c'est un adepte du legato, vous savez, cette technique qui consiste à lier toutes les notes entre elles sans silence. Santana sait faire chanter sa guitare. Pour RTL, il raconte son lien personnel avec son instrument.
Ma guitare est une extension de mon esprit. Je ne pense pas en termes de notes, de cordes ou de théorie, mais en termes de sentiments, d'émotions et de passion. Comment mettre le feu à mes doigts sur le manche ? La musique, ça ne se convoque pas. Quand je suis chez moi, ma guitare est dans un placard, je n'y touche pas. Je ne joue pas tous les jours, je ne veux pas devenir un perroquet qui répète des choses qu'il ne comprend pas, juste parce qu'il s'ennuie. Mes doigts ne mentent pas. Donc quand j'attrape une guitare, c'est un truc sacré, parce qu'une guitare, c'est un être vivant. D'ailleurs, tu dois lui parler. Pourquoi t'es désaccordé ? C'est quoi ton problème ? Pourquoi tu bégayes ? Tu hésites ?
Une
nouvel album de Santana s'appelle Blessings and Miracles. Il vient de sortir.
À écouter sans modération. Merci beaucoup du conseil, Stephen Bellery sur RTL ce soir.
Laissez-vous tenter. Dernière.
Allez, on va marquer une très courte pause, les amis. Et dans un instant, on va défaire le monde dans RTL Soir. Les camarades Sini, Landreau, oui. Asquin, Tessier s'installent en studio. Chasse Steven Bellery sans ménagement. Bonsoir, les amis.
Bonsoir à tous. On adore Santana.
Juste après la pause, cette question qui fait trembler. Voilà. Est-ce que nous aurons assez d'huîtres pour Noël?
Oh,
à tout de suite sur RTL.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.